41.
C'était rudement bon,
s'enthousiasma Seldon. Nettement meilleur que les plats apportés par Gris Nuage. Dorse tempéra son enthousiasme. N'oubliez pas que sa femme avait dû les préparer à toute vitesse au beau milieu de la nuit. Elle marqua un temps d'arrêt puis reprit. À propos, j'aimerais bien qu'au lieu de dire la femme, ils disent ma femme. Dans leur bouche, on croirait qu'ils parlent d'un accessoire, comme ils diraient le lit ou la table. C'est parfaitement avilissant. Je sais. Ça me met en rogne. Mais ils pourraient dire ma femme d'une manière tout aussi possessive. C'est leur mode de vie, et les sœurs n'ont pas l'air de s'en formaliser. Vous et moi n'allons rien y changer par nos sermons. Au fait, vous avez vu comment elles ont procédé?
Oui.
Et allez voir, tout semblait parfaitement simple. Je doute d'être capable de me souvenir de tout, mais elles ont soutenu que je n'en aurais pas besoin. Je n'aurais qu'à faire réchauffer les ingrédients. J'ai cru comprendre qu'on ajoutait au pain, durant la cuisson, une espèce de dérivé de micro-organismes qui lui permettait de lever et lui donner ce croustillant et ce parfum, avec un soupçon de poivre, vous ne croyez pas?
Je ne saurais dire.
Mais en tout cas, j'en aurais bien repris. Et la soupe, vous avez reconnu les légumes?
Non.
Et la viande en tranche, c'était quoi?
À vrai dire, je ne crois pas que ce soit de la viande en tranche. Ça me rappelait un peu un plat à base d'agneau qu'on mangeait sur Sina.
Ce n'était certainement pas de l'agneau. J'ai bien dit que je ne croyais pas que ce soit de la viande.
Et je crois que personne ne mange ainsi ailleurs.
Pas même l'empereur, j'en suis sûr. Je suis prêt à parier qu'ils exportent leur fond de tiroir. Ils se gardent le dessus du panier. On a intérêt à ne pas rester ici trop longtemps, Harry. Si on s'habitue à manger comme ça, on ne pourra plus jamais s'acclimater aux trucs répugnants qu'on sert ailleurs.
Elle rit.
Seldon rit aussi. Il but une nouvelle gorgée de jus de fruits qui lui sembla bien plus délicieux que tout ce qu'il avait pu boire jusqu'ici. Puis il remarqua.
Dites donc,
quand Eumine m'a conduit à l'université, on s'est arrêté dans un resto-route et tout ce qu'on a mangé sentait uniformément la levure. On aurait dit... Bon, peu importe. En tout cas, j'étais loin d'imaginer à ce moment-là qu'on pouvait donner si bon goût à des micronutriments. J'aurais bien aimé que les sœurs soient encore là. Il aurait été courtois de les remercier. Je crois qu'elles ont parfaitement saisi nos sentiments. Je m'étais déjà extasié sur l'odeur merveilleuse de tous ces plats qui mitonnaient, et elle m'avait répondu avec une certaine suffisance qu'au goût, ce serait encore meilleur.
C'est la plus grande qui vous a dit ça, j'imagine?
Oui. La cadette a pouffé de rire. Et elles vont revenir. Elles doivent m'apporter une tunique pour que je puisse sortir avec elles faire les magasins, et elles m'ont bien fait comprendre qu'il faudrait que je me lave le visage si je devais me faire voir en public. Elles me montreront où acheter moi-même des tuniques de bonne qualité et où me procurer toutes sortes de plats tout préparés. Je n'aurai plus qu'à les réchauffer. Elles ont expliqué qu'une sœur qui se respecte ne procéderait jamais ainsi, mais ferait tout elle-même. En fait, certains des plats qu'elles nous ont servis étaient simplement réchauffés et elles s'en sont excusées. En réussissant quand même à sous-entendre qu'on ne pouvait pas attendre que des barbares sachent pleinement apprécier l'art culinaire et que nous pouvions bien nous contenter des plats précuits simplement réchauffés. À propos, elles ont l'air de considérer comme évident que je fasse toutes les courses et la cuisine.
Comme on dit chez nous, à Trentor, fait comme les Trentoriens.
Évidemment. J'étais sûr que vous auriez cette attitude.
Je suis seulement humain, dit Seldon.
L'excuse habituelle, remarqua Dorse avec un petit sourire.
Seldon se carra dans sa chaise avec l'agréable sensation d'être rassasié et repris.
Vous êtes sur Trentor depuis 2 ans, Dorse. Vous devez donc saisir un certain nombre de choses qui m'échappent. Selon vous, l'étrange système social des mycogéniens serait-il lié à leur conception surnaturaliste?
Surnaturaliste?
Oui. Avez-vous entendu évoquer ce genre d'hypothèse?
Qu'entendez-vous par surnaturaliste?
L'évidence. La croyance à des entités indépendantes des lois naturelles non soumises à la conservation de l'énergie, par exemple, ou à l'existence d'une constance d'action.
Je vois. Vous me demandez si Mycogène est une communauté religieuse. C'était au tour de Seldon d'être intrigué.
Religieuse?
Oui. C'est un terme archaïque, mais les historiens l'utilisent. Notre domaine est truffé de termes archaïques. Religieux n'est pas exactement l'équivalent de surnaturaliste, même si la religion contient d'évidents éléments de surnaturalisme. Je ne puis répondre de manière précise à votre question, car je n'ai jamais étudié Mycogène de manière spécifique. Malgré tout, partant du peu que j'en ai vu, et de ce que je sais des religions dans l'histoire, je ne serais pas surprise que Mycogène soit une société à caractère religieux. En ce cas, seriez-vous surprise si les légendes mycogéniennes étaient également à caractère religieux? Certainement pas. Et par conséquent, non fondées sur des bases historiques. Ce n'est pas un corollaire obligé. Le noyau de ces légendes pourrait avoir un fondement authentiquement historique, mêlé de distorsions et de surnaturalisme.
Ah !
Fit Seldon qui parut s'absorber dans ses pensées. Finalement, Dorse rompit le silence pour ajouter « Ce n'est pas si rare, vous savez. Il subsiste encore un fort élément religieux sur bien des planètes, qui s'est d'ailleurs renforcé au cours des derniers siècles à mesure que l'agitation gagnait l'Empire. Sur mon monde de Sina, un quart au moins de la population est trithéiste. » Une fois de plus, Seldon mesura, avec un regret douloureux, l'étendue de son ignorance en histoire. Y a-t-il eu des époques, dans le passé, où la religion avait plus d'importance qu'aujourd'hui?
Certainement.
De surcroît, de nouvelles variétés apparaissent constamment. La religion mycogénienne, quoi qu'elle soit, pourrait être relativement récente et se limiter à Mycogène même. Impossible d'être sûr sans une étude approfondie. Voilà donc où je voulais en venir. D'après vous, Dorse, les femmes seraient-elles plus enclines à la religion que les hommes?
Dorse Venabili haussa les sourcils.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse avancer une hypothèse aussi simpliste. Elle réfléchit un instant. Je suppose que les éléments de la population qui ont le moins de prise sur le monde naturel matériel sont les plus aptes à trouver le réconfort dans ce que vous appelez le surnaturalisme. Les pauvres, les déshérités, les opprimés. Et dans la mesure où le surnaturel englobe la religion, ils peuvent être également plus religieux. Il existe évidemment quantité d'exceptions. Bon nombre d'opprimés peuvent être dépourvus de religion. Bon nombre de gens riches, puissants et comblés peuvent en avoir une. Mais, reprit Seldon, à Mycogène, où l'on semble traiter les femmes comme une sous-humanité, aurais-je tort de présumer qu'elles doivent être plus enclines à la religion que les hommes, plus portées à croire les légendes qu'a entretenu la société?
Je n'y mettrai pas ma main à couper, Harry, mais je serai prête à parier une semaine de traitement.
Bien, dit Seldon pensif. Dorse lui sourit. Voilà un élément pour votre psychohistoire, Harry. Règle numéro 47854, les opprimés sont plus religieux que les satisfaits. Seldon hocha la tête. Ne plaisantez pas avec la psychohistoire, Dorse. Vous savez que je ne suis pas à la recherche de petits bouts d'axiomes, mais de vastes généralisations et de règles opératoires. Je ne cherche pas à déduire une étude comparative de la religiosité d'une centaine de règles spécifiques. Ce que je cherche, c'est un ensemble d'éléments qui me permettent, après une manipulation par quelques systèmes logiques à fondement mathématique, d'affirmer « Ah ah, ce groupe-là va tendre à être plus religieux que ce groupe-ci, à condition que les critères suivants soient remplis ». Et par conséquent, lorsque l'humanité rencontrera ces mêmes stimuli, elle réagira de manière identique.
Mais c'est horrible!
Vous décrivez les êtres humains comme s'ils étaient de vulgaires mécaniques. Pressez ce bouton et vous obtenez cette réaction.
Non,
parce qu'il y aura quantité de boutons pressés en même temps, et plus ou moins fortement, ce qui engendrera tant de réponses différentes qu'une prédiction globale de l'avenir ne pourrait être que de nature statistique, de sorte que l'individu gardera son libre arbitre.
Comment pouvez-vous le savoir?
Je ne peux pas, dit Seldon. Du moins, je ne le sais pas. Je le sens. C'est ainsi que j'estime que les choses devraient être. Si je puis trouver les axiomes, les lois fondamentales de l'humanique, si l'on peut dire, et le traitement mathématique idoine, alors je tiendrai ma psychohistoire. J'ai prouvé qu'en théorie, du moins, c'était possible. Mais inapplicable, c'est cela. Je n'arrête pas de le répéter. L'esquisse d'un sourire incurva les lèvres de Dorse. Est-ce ce que vous êtes en train de faire, Harry? Chercher une sorte de solution à ce problème? Je n'en sais rien. Je vous jure que je n'en sais rien. Mais Chatterhamine voudrait tellement trouver une solution et, sans trop savoir pourquoi, j'aimerais tant lui faire plaisir. C'est un homme si persuasif. Ça, je le sais. Seldon ne releva pas, mais une ride fugace lui plissa le front. Il poursuivit. Humine soutient que l'Empire est en pleine décadence, qu'il va s'effondrer, que la psychohistoire est le seul espoir de le sauver, ou du moins d'amortir la chute ou d'en améliorer les conditions, et que, sans elle, l'humanité sera détruite, ou en tout cas qu'elle traversera une longue période de souffrance. Il semble faire reposer sur moi la responsabilité d'éviter ce malheur. Bon, l'Empire me survivra sans aucun doute, mais si je veux vivre sans remords, je dois ôter de mes épaules le poids de cette responsabilité. Je dois me convaincre et convaincre Mine que la psychohistoire n'est pas une solution pratique, que malgré la théorie, elle ne peut pas être mise en application. Aussi dois-je suivre le plus de pistes possibles pour démontrer que chacune est nécessairement une impasse. Des pistes? Par exemple, remonter dans l'histoire jusqu'à une époque où la société humaine était plus petite qu'aujourd'hui? Bien plus petite. Et considérablement moins complexe. Et démontrer qu'une solution demeure quand même inapplicable? Oui. Mais qui va vous décrire ce monde primitif? Si les mycogéniens détiennent une description cohérente de la galaxie primordiale, nul doute que Maître du Soleil se gardera bien de la révéler à un barbare. Aucun mycogénien ne le fera. Cette société vit repliée sur elle-même, combien de fois voulais-je répéter, et la méfiance de ses membres à l'égard des barbares confine à la paranoïa. Ils ne nous diront rien. Il va falloir que je trouve le moyen de persuader certains mycogéniens de parler. Ses sœurs, par exemple. Elles ne voudront même pas vous entendre, mal que vous êtes, pas plus que Maître du Soleil ne veut m'entendre. Et même si elles vous parlaient, que seraient-elles, hormis quelques formules indéfiniment répétées? Il faut bien que je trouve un point de départ. Bon, et laissez-moi réfléchir. Humine dit que je dois vous protéger, et cela implique, semble-t-il, que je dois vous aider quand je le peux. Qu'est-ce que je peux bien vous dire sur la religion? C'est à 100 lieues de ma spécialité, vous savez. Je me suis toujours intéressé au courant économique plutôt qu'au courant philosophique. Mais enfin, on ne peut pas non plus diviser l'histoire en une série de petits compartiments indépendants. Par exemple, les religions ont tendance à s'enrichir quand elles ont du succès, et cela finit par modifier le développement économique d'une société. Incidemment, voilà encore une des nombreuses règles de l'histoire humaine qu'il vous faudra dériver de vos... Comment dites-vous déjà? Lois fondamentales de l'humanique? Mais... Et là, la voix de Dorse s'éteignit, tandis qu'elle s'absorbait dans ses pensées. Seldon l'observa, circonspect. Dorse avait les yeux dans le vague, comme si elle regardait au très fond d'elle-même. Finalement, elle reprit. Ce n'est pas une règle immuable, mais il me semble que, dans bien des cas, les religions ont un livre, ou plusieurs livres, à qui elles attribuent un maximum de sens, des livres qui présentent leurs rituels, leur vision de l'histoire, leur poésie sacrée, que sais-je encore. D'ordinaire, ces livres sont accessibles à tous et sont à la base du prosélytisme. Parfois, ils sont secrets. Croyez-vous que Mycogène possède ce genre de livre? Pour dire la vérité, répondit Dorse, songeuse, je n'en ai jamais entendu parler. Ça aurait été le cas s'ils avaient existé au grand jour, ce qui signifie qu'ils n'existent pas ou qu'ils sont tenus secrets. Dans l'un et l'autre cas, il me semble que vous n'êtes pas près de les voir. Au moins, voilà un point de départ.
dit Seldon d'un air sinistre.